Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. En ma compagnie, je ne vous le présente plus, mais je vous le présente quand même, Maxime Dupuis. Et ensemble, nous allons débriefer toute l'actualité de l'équipe de France. Et c'est une bonne nouvelle qu'on parle de l'équipe de France et non pas de l'équipe d'Allemagne. Car pour ceux qui ne le savent pas, je dis juste, voilà, mais comme ça, mais non, mais non, mais laisse-moi parler, Maxime. Maxime avait fait de l'Allemagne en 2018, c'était...
Mais je le fais tous les 4 ans.
En 2018.
Ça tient pas ton truc.
En 2018, Maxime avait fait de l'Allemagne le grand favori de la Coupe du Monde, une équipe éliminée à l'époque par la Corée du Sud. Rebelote 4 ans plus tard. Non mais Martin, attends, ils ont raté leur Euro, ils ont raté les Coupes du Monde. Mais c'est l'Allemagne. Et puis l'Allemagne, ils n'ont pas besoin de grands joueurs, c'est un collectif, ils ont 4 étoiles, c'est pas pour rien. Une équipe qui a donc perdu contre le Japon.
Alors,
Maxime.
Non mais j'espère que vous saluerez l'audace de Martin, qui est quand même un peu l'inspecteur des pronos finis.
Je vais
l'appeler comme ça, inspecteur des pronos finis, c'est-à-dire qu'après coup, bah oui, il fait le malin. Ouais. Mais on peut aussi parler du Sénégal que tu as mis en demi-finale.
Donc on va comparer.
Non.
On va comparer. Attends, on va comparer le Sénégal qui a perdu dans les derniers instants face aux Pays-Bas en ayant perdu dans la semaine son meilleur joueur, deuxième du Ballon d'Or, Sadio Mané, à l'équipe d'Allemagne, la grande Allemagne, quatre fois championne du monde, face au grand Japon, au très grand Japon,
l'inspecteur,
les samouraïs.
Inspecteur des pronos finis, voilà, c'est Martin.
Voilà, faut juste
le mec arrive, il balance des trucs pendant des mois. Le Sénégal, ça fait 6 mois qu'il parle du Sénégal.
Il y a Mané, il n'y a plus Mané, Maxime.
Non, mais bon, j'ai rien.
Et puis ils ont perdu face aux Pays-Bas, ils n'ont pas perdu face au Japon, excuse-moi. Enfin bref, heureusement, nous parlons de l'équipe de France. Donc Maxime est un peu plus raisonné sur les Bleus, aussi parce que je tiens les rênes, hein, je ne lâche pas la bride, parce que si je lâche au triple galop, il est capable de nous dire n'importe quoi. Heureusement,
tu sais que ça peut être le fil rouge. Alors évidemment, là, je fais le malin, parce que... enfin non, je fais pas le malin d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Japon.
Ah non, tu faisais pas le malin. Non.
Dimanche, il y a un Allemagne-Espagne qui est complètement incroyable.
Oh, incroyable, l'Espagne qui vient d'en coller 7. Hein.
Qui vient d'en coller 7 au Costa Rica. La seule bonne nouvelle pour l'Allemagne, c'est que dans les buts, c'est Neuer, mais pour le reste, ça va être quand même un sacré
Neuer sur le deuxième but du Japonais.
Enfin
bref, on n'est pas là pour faire le procès de l'Allemagne, Maxime.
Oula, voilà. Ça nous ramène à des...
Hop, attention, ne dérape pas. Donc, l'équipe de France, 24 heures après la victoire inaugurale face à l'Australie, on va revenir sur ce succès en 3 points. Tu vois, c'est comme au lycée.
Oui,
tu vois,
comme à chaque émission.
Comme à chaque émission aussi, effectivement. On débutera cette émission par le premier sujet. On va se demander si c'était une victoire finalement si convaincante que ça. Parce qu'avec Maxime, on a revu le match 6 fois chacun. Et finalement, il y a quand même quelques raisons de ne pas être complètement ébloui par cette équipe de France.
Ouais, ensuite on parlera du deuxième match et du Danemark et d'un absent Martin qui rigole parce qu'il se dit il a oublié le sujet.
Ouais, j'étais sûr.
Ce qui était fort possible, mais j'ai pas oublié le sujet. Et on se posera la question de savoir est-ce que dans cette équipe il faut se. Alors, je vais pas dire précipiter, mais est-ce qu'il faut d'ores et déjà faire rentrer Varane alors qu'au final la charnière a bien tenu le choc face à l'Australie.
Et on terminera avec Ousmane Dembélé qui avait dégagé du 11 dès le deuxième match en 2018. Est-ce qu'il en a fait assez ? Est-ce qu'il en a suffisamment montré pour convaincre Didier Deschamps de l'amener avec lui jusqu'à la finale ? C'est la troisième question qu'on se posera dans cette émission.
Cette émission qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Si vous nous cherchez, si vous voulez mettre des commentaires, il faut juste appuyer. On l'a expliqué à un
monsieur
nous expliquait. Je crois qu'il y a un truc marqué « Donnez votre avis ».
Rédigez votre avis.
Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut nous chercher sous le terme Eurosport, l'étendard Eurosport FC, Eurosport Football Club, puisque c'est là qu'on range, entre guillemets, dans une grande boîte, toutes nos émissions d'Eurosport de football. Donc le FC Stream Team, Tour d'Europe qui vient, Tour du Monde et qui sera demain à la place de Stream Team, et Mercredi Mercato qui lui reviendra après la Coupe du Monde. On est au moment du mercato pour le coup.
C'est pour ça qu'il est chef, parce qu'il n'a pas besoin de notes pour tout ça, il déroule. Tac, tac. C'est Tchouaméni, bam, 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 qui balance les ballons comme ça. On y va, Maxime, sur l'équipe de France ?
Vas-y.
Alors, j'ai envie de te poser cette question, Maxime. 24 heures après la victoire des Bleus face à l'Australie, la large victoire au moins au tableau d'affichage 4 buts à 1. Cette question que je te pose, est-ce que c'était un succès si convaincant que ça finalement ?
Alors bizarrement, j'aurais été plus sévère hier soir qu'aujourd'hui avec le recul, puisque j'ai re-regardé le match pas en entier, mais des séquences. C'était pas parfait, mais j'ai envie d'être positif aujourd'hui, c'est-à-dire que ça gagne 4-1 finalement, c'est pas anodin de gagner 4-1, un point match de Coupe du Monde. L'Australie n'était pas au niveau d'il y a 4 ans, mais on n'est peut-être pas non plus dans le même chantier qu'il y a 4 ans, où on se posait la question du système, etc. Là, on a l'impression, moi je pense que ça tient, et j'ai plus de doutes sur certaines individualités et de la manière dont elles ont géré l'événement. Il y a quelque chose qui m'a embêté quand même, c'est que, alors les 4 buts très bien, défensivement j'ai pas grand chose à dire, hormis évidemment Pavard, on en a déjà parlé hier, c'est plus une forme de timidité que j'ai senti, d'énergie qui manquait dans cette équipe, parce que finalement il n'y a pas eu tellement besoin d'enfoncer le clou face à l'Australie, finalement ça a été assez logique. Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs à la fin du match, il dit qu'ils avaient perdu beaucoup d'énergie à la fin de la première mi-temps, les Australiens, et finalement c'était une suite assez logique, donc je pense que c'était pas parfait, mais j'ai envie de dire à revoir face à un adversaire plus fort, ce sera le cas face au Danemark.
Alors je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'an dernier il y avait le chantier, la question du système et tout ça, parce que pour moi la question du système reste centrale, la question de l'animation du système et même des individualités qui animeront ce système reste centrale pour plusieurs raisons. Un, parce que déjà j'ai trouvé l'Australie bien moins forte qu'il y a 4 ans. Alors c'est peut-être grâce à l'équipe de France.
Non, mais c'était moins fort.
Voilà, bien moins forte que l'équipe de France. Deux, parce qu'on a quand même une première demi-heure angoissante. Et je pèse mes mots. Et que même jusqu'au troisième but, je dirais, de l'équipe de France, on était quand même dans un match au rythme très incertain. Et quand on voit d'autres nations, alors certaines comme l'Allemagne qui ont complètement coulé, mais d'autres qui ont imposer un rythme à leurs adversaires, ce n'était pas le cas de l'équipe de France. Alors ça a rarement été le cas de l'équipe de France de Didier Deschamps, mais malgré tout, et comme tu le dis, une certaine mollesse dans les duels, un certain manque de conviction qui font que oui, c'est une large victoire, mais je pense que le score ne reflète pas entièrement la physionomie du match.
Non mais au fond on est d'accord, mais c'est plus l'impression que j'avais avant le match et les inquiétudes que j'avais qui finalement... J'ai trouvé plus de réponses que de questions. Évidemment, il y en a qui se posent, et comme tu le dis, ouais, le premier 25 minutes, c'est plutôt inquiétant dans la transmission du ballon. Même Tchouaméni qui est vraiment dedans, alors que c'était celui dont on attendait beaucoup mieux de terrain. Mais j'ai l'impression de ressortir de ce match avec encore des questions, évidemment, puisqu'on va d'ailleurs les poser dans la suite de cette émission, mais avec des réponses quand même plus rassurantes que ce que j'imaginais. Donc j'ai presque envie de voir le verre à moitié plein aujourd'hui.
Alors pour moi, les questions, elles sont encore nombreuses.
C'est certain.
Les côtés, c'est pas du tout résolu. À droite, Pavard, ça va pas. À gauche, on a que Théo Hernandez. La charnière a été très forte. La charnière a été très forte. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette charnière-là ? C'est une autre question.
Oui, mais là, je te dirais que ça, c'est un bon problème à la rigueur.
À la limite, c'est un bon problème. Ousmane Dembélé, on en parlera dans la troisième partie de cette émission. Est-ce qu'on le garde ? Pour moi, il n'y a rien d'évident aujourd'hui. Donc moi, par contre, ce qui m'a convaincu, et le point positif, très positif, c'est la connexion Giroud-Mbappé, là d'accord, ou pas Mécano, là d'accord, voilà, donc c'est, voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut construire, mais je dirais que l'ensemble, et notamment cette fameuse question du système, pour moi, il n'y a rien d'évident aujourd'hui.
Il y a un problème que tu ne régleras pas finalement, de toute façon, parce que ça restera toujours un problème, vu que Lucas s'est blessé, c'est l'arrière-gauche, parce que quoi qu'il arrive, ce sera du bricolage, si évidemment Théo... et soit suspendu, soit blessé, ce qu'on ne lui souhaite pas. En revanche, moi, dans les points positifs, j'ai beaucoup aimé ce couloir gauche. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de Théo Hernandez, avec Mbappé, avec des fois
avec une limite, c'est-à-dire, est-ce que ce couloir gauche, il est hyper exposé aujourd'hui ? Parce que Théo Hernandez, on sait, il a des velléités offensives. Kylian Mbappé, on sait que le repli défensif, c'est pas dans sa nature profonde.
J'ai vu un très bon Rabiot aussi.
C'est vrai.
Tu vois mais tu as raison, mais je pense que malheureusement... vu ce qui s'est passé hier, le coup du sort, tu ne changeras pas la nature de cette équipe-là et que tu auras un côté gauche assez plus exposé que si tu avais un Lucas Hernandez ou un Lisa Razou arrière gauche, c'est sûr. Mais j'ai quand même bien aimé ce qui a été fait. C'est évidemment pas un mal pour un bien de perdre un joueur blessé, vraiment pas, parce que je pense que tu as le côté plus sécurisant de Lucas, mais je trouve que la réponse qui a été donnée était plutôt bonne. Et j'ai envie de dire, voilà, moi ce que je retiens, ce que j'ai envie de retenir, et je serai le premier sûrement à dire, bah oui, finalement c'était pas si bien au regard du deuxième match, parce que c'est toujours un peu comme ça. Mais au moins, je me dis que Alors déjà, ça aurait pu être bien pire au niveau comptable, ça aurait pu être bien pire au niveau attaque.
C'était très mal parti.
Et quand même, tu te dis que voilà, il y a eu au moins cette réaction qui n'est pas une vraie réaction. Si, enfin, c'est le Théo Hernandez qui siffle la révolte avec ce centre et la tête de Rabiot. Mais au moins, ils l'ont fait. Il y a ça, et j'ai envie de dire encore une fois de tirer le positif de ça. C'est pas toujours évident, mais au moins, je me dis d'où ça partait. Bah, on est un peu plus avancé, même si, comme tu dis, évidemment, il y a d'immenses questions. Et tu l'as dit, côté droit, plus que Dembélé, on en parlera tout à l'heure. Évidemment, la question de l'arrière droit est très problématique parce que là, c'est même un problème de métier. Parce qu'à gauche, on en a peut-être plus qu'un, mais c'est son métier.
Ouais.
À droite, on n'en a aucun de métier. Et le problème, c'est qu'on l'a lancé dans le bain et ça ne s'est pas bien placé.
Et je rappelle juste que la doublure de Benjamin Pavard
s'appelle
Jules Koundé. Que Jules Koundé, c'est très bien en équipe de France quand il est axial, mais qu'à chaque fois qu'il a joué à droite, et notamment lors du dernier Euro.
Axial droit, à 3 en plus.
À 3. Ouais. Chaque fois qu'il a joué à droite, dans mes souvenirs, et vous me corrigerez sur les plateformes de podcast, vous viendrez me chercher ou sur Twitter, mais il me semble que c'est à l'Euro et même à la rentrée internationale, à chaque fois, c'est pas bon.
Il avait pris.
Il y a des expulsions.
Je crois qu'il prend son carton rouge en position d'arrière droit.
Voilà, il y a des expulsions. Et puis, il maîtrise pas le poste. Ouais. Alors, Deschamps va toujours nous dire oui, mais Benjamin, il connaît ce poste-là. Il a joué des années en équipe de France. C'est vrai. Jules Koundé a joué à ce poste parfois en Espagne et notamment cette saison FC Barcelone. C'est vrai. Malgré tout, moi, ce que je constate, c'est qu'au plus haut niveau international et en équipe de France, ni l'un ni l'autre n'ont fait leur preuve. Et encore moins aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire que Pavard, j'ai l'impression que ça décline. J'ai l'impression que ça décline.
Et Didier Deschamps dans cette
histoire. Et c'est normal puisqu'il joue dans l'axe au Bayern.
Et Didier Deschamps, cette histoire, il est autant victime que coupable. Pourquoi ? Parce que pendant un an, il a testé un système avec un piston, comme il dit, un piston droit à trois derrière et deux joueurs sur les côtés. Son passé à ce poste-là, si je ne me trompe pas, Pavard, ça ne l'a pas fait du tout. Souvenez-vous de la scène pendant la finale de la Ligue des Nations avec Pogba qui l'engueule ostensiblement parce qu'il n'y est pas du tout. Il y a eu... Dubois, il y a joué après l'Euro ?
Ah non, après l'Euro, il y a eu Mukiele.
Ouais, Mukiele, il a essayé Klose. Et en fait, en gros, on est arrivé au mois de... Entre novembre et mars avec Klose
et
Coman, voilà. Pour moi, alors Coman, ça n'a jamais été une solution parce que c'était trop offensif. Klose, on a vu ses limites. Et à partir du moment où Deschamps s'est dit on va revenir à 4 derrière parce que c'est plus sécurisant, il n'y a plus de plan B. Sinon, deux centraux qui sont venus faire le nombre sur le côté. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Il faut espérer que... Moi, j'imagine que Koundé jouera, que Koundé fasse un bon match.
Tu penses qu'il va mettre Koundé ?
Moi, je ne mets pas Pavard, pour le coup. Mais je sais pas. Enfin, je sais ce que je ferais.
Tu le tues.
Ouais, mais moi, tu sais, moi, c'est le haut niveau.
Ouais, le haut niveau pour la de France, pas pour tes analyses.
Tu peux pas avoir un blanc-seing.
Ouais, mais il l'a.
Tout le temps.
A fortiori. Force est de constater qu'il l'a.
Oui.
Bon, en tout cas, il y aura un très bon papier, Benjamin Pavard, je pense, à venir sur sport.fr. Ne vous inquiétez pas. Enfin, tout dépend qui l'écrit.
Et tu sais quoi, il faudra aussi en faire un sur la spécificité de ce poste. Pourquoi on n'en trouve pas?
Voilà, c'est aussi l'objet du
podcast. On travaille parce que pendant qu'on est en train de vous parler, on réfléchit aussi à la suite.
Bien sûr, parce que
toujours
sinon,
un coup d'avance,
pas.
C'est comme un footballeur qui reçoit le ballon, tête levée. Exactement. Regardez toujours vers l'avenir.
Exactement. Allez, on va passer au deuxième sujet. Et une autre question qui va se poser face au Danemark. Que faire de Raphaël Varane ? Les enjeux sont les suivants. Raphaël Varane n'a plus joué de match, n'a plus joué la moindre minute depuis le 22 octobre. Donc, ça fait plus d'un mois aujourd'hui.
Ouais.
Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. A priori.
Apte et disponible.
Apte et disponible puisqu'il figurait sur la feuille de match. C'était mardi. Donc, Deschamps n'aurait pas pris le risque de le mettre sur la feuille de match si toutefois, ça n'allait pas. Il a participé aux derniers entraînements collectifs, donc il est valide, mais la charnière a plutôt convaincu. Upamecano, Konaté, surtout Upamecano. Maxime, qu'est-ce qu'on fait de Raphaël Varane, sachant que ce n'est pas n'importe qui, c'est le leader de cette défense, c'est l'un des meilleurs joueurs français en 2018, il a fait un super début de saison à Manchester United, la France en a besoin, est-ce qu'il faut le lancer face au Danemark. Maxime, tu dis Didier Deschamps, tu fais quoi?
Ah bah, je le lance contre le Danemark. À partir du moment où il est apte et disponible, je le fais jouer pour deux raisons. Déjà, le meilleur des deux mardi soir, c'est Upamecano. Bah, ça tombe bien, il est axial gauche. Donc, il faut y aller avec Varane. On le répète, il nous a vraiment étonné, impressionné dans son jeu de relance. Dans les duels, il n'y en a pas eu 50, mais il a fait le job. Et vraiment, il a apporté un plus et montré qu'il pouvait avoir les épaules. Donc déjà, lui, il faut le retester parce qu'il faut le voir face au Danemark, face à une opposition un peu plus forte. Et il faut le voir maintenant avec le vrai patron de la défense, parce que de toute façon, à terme, c'est Varane, enfin logiquement. Et je pense aussi qu'il faut le lancer maintenant, parce qu'après, ça devient trop tard, tout simplement. Si il n'est pas lancé face au Danemark, ça veut dire que vous le lancez face à la Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce que sera ce match? C'est soit un match de coiffeur, soit un match à la vie à la mort.
C'est peut-être pas mal de le lancer pour le troisième match, dans un match qui a moins d'enjeux.
Oui.
Ou... Non, je sais pas.
Alors, oui, mais tu le
Je me dirais naturellement, peut-être...
Oui, mais tu l'éloignes encore plus de son dernier match.
C'est vrai.
Et tu lui donnes qu'un one shot pour se remettre d'aplomb. Alors évidemment, s'il se rate contre le Danemark, c'est compliqué. Mais au moins, on pourra mettre ça sur le côté. Bon, allez, c'était le temps de se remettre en marche. Donc oui, moi, je pars du principe que s'il est apte, bah, c'est Varane. On ne se poserait pas la question avec Pogba, on ne se poserait pas la question avec Mbappé, on ne se poserait pas la question avec un autre. Donc ok, ils ont fait un très bon match, au-delà des espérances. Mais là, c'est là où il ne faut pas être poisson rouge et de se dire que bah, ça reste Varane et que moi, je mets Varane en défense centrale face au Danemark, si évidemment, il est vraiment apte et disponible.
Et ça, c'est une vraie question, parce que pourquoi Didier Deschamps ne l'a pas titularisé hier?
C'est qu'il n'était pas apte.
À 100%, on est bien d'accord.
Bah oui.
Alors qu'il a participé aux entraînements collectifs, donc qu'est-ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, Raphaël Varane est apte à 100%? Parce que Didier Deschamps, quand les mecs sont prêts, il n'hésite pas à les lancer. Mmh. Est-ce que c'est la blessure de Benzema ou tout ce qui est tombé sur le coin de la tête des Bleus depuis des semaines qui l'a rendu peut-être un tout petit peu plus prudent? Ce serait pas non plus totalement illogique. Je rappelle que les Bleus ont quand même perdu Kimpembe, Pogba, Kanté, Benzema, Lucas Hernandez. Que des champions du monde, plus Karim Benzema. Que des cadres, que des gens qui comptent dans le vestiaire et surtout sur le terrain. Donc il se dit peut-être qu'à un moment, il faut que je préserve ce qu'il me reste. Ça peut être une possibilité. Mais dans ce cas-là, le risque est grand aussi de le lancer face au Danemark et de ne pas prendre plus de temps pour s'assurer sa montée en puissance jusqu'à Tunisie, où, a priori, sans doute, peut-être, je ne sais pas, mais ce sera peut-être moins crucial comme enjeu, même si tu perds contre le Danemark, finalement, le problème, c'est que tu recules pour mieux sauter.
Ouais. Et de toute façon, le apte et disponible, était-il apte et disponible? La réponse à la question, non, parce que s'il est apte et disponible, il joue.
On ne pose pas la question,
On ne pose pas la question.
Ah, oui.
Deschamps avait pour objectif, si je me souviens bien, c'est que le premier entraînement collectif au Qatar soit celui où et Benzema et Varane réintroduisaient le groupe. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'il a peut-être manqué un jour ou deux. Et il s'est dit, le jeu n'en valait pas la chandelle.
Ils ont intégré le
lendemain, le vendredi, je crois.
Non, le samedi.
Le samedi, le oui. Samedi. Bon, voilà. Et en fait, le truc, c'est que s'il avait été apte, Deschamps n'aurait pas hésité une seconde. Parce que quand même, on le dit maintenant, on est très content que ça ait très bien marché. Mais le risque de Konaté ou Upamecano, il était quand même XXL. Voilà, et notamment Upamecano. Et on pouvait se dire que si on avait avancé aussi ici que le fait de mettre Upamecano et Konaté, ça avait l'avantage de les peut-être rassurer, notamment Upamecano, parce qu'il était aux côtés de quelqu'un qu'il connaît. Je pense qu'il ne se serait pas forcément moins bien senti à côté de Varane. Donc voilà, il n'était pas complètement prêt, il n'a pas pris de risque, ça a marché, tant mieux, c'est un joker pour Deschamps. Mais je pense que là, c'est le moment, parce qu'après, pour moi, ça commence à être trop tard, vraiment.
Et moi, je pense qu'en tout cas, le problème Varane est un tout petit peu moins un problème vu le match d'hier. Alors,
ouais.
Pourquoi? Parce que ces deux hommes nous ont montré des garanties dans un match de Coupe du Monde. Alors, tout le monde va dire, oui, c'est l'Australie, c'est pas le Danemark, c'est pas le Brésil. Voilà. C'est un match de Coupe du Monde. Et Upamecano ne nous avait pas montré de garantie contre des petites nations. Mmh. Il a vécu un cauchemar au Danemark.
Ouais.
Hein, on s'en rappelle, c'était fin septembre, mi-septembre. Ouais. Il a vécu un cauchemar face au Danemark. Donc, ça serait rigolo de le retrouver un mois et demi plus tard face à ces mêmes adversaires. Mais en tout cas, disons que le problème Varane est peut-être un peu moins aigu vu ce qui s'est passé face à l'Australie.
Ouais, et puis remettre par exemple la même charnière que face à l'Australie. Imaginons qu'elle fasse un match immense.
Non, mais c'est Varane, Maxime.
Ah oui, c'est Varane. Oui, mais ça voudra dire, oui, mais ça posera problème quand même. Je veux dire, donc il faut y aller. L'équipe de France n'a pas gréé son joker. S'il est disponible, il est là avec Upamecano. Moi, j'ai très envie de le voir avec Upamecano parce que là, on a peut-être une vraie base intéressante.
Varane est jeune encore. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est une jolie charnière.
C'est ce que je te dis, c'est Varane et Upamecano.
Ah oui, ok.
Ah oui, non, j'ai très envie de les voir les deux parce que justement, c'est le patron absolu.
Ah oui, d'accord.
Plus, et on verra comment ça se passera, mais quand Varane arrêtera sa carrière internationale, il faudra faire quelque chose sur tous les coéquipiers qui sont passés avec lui.
Ah oui.
Et aussi sa force d'adaptation aussi, parce qu'il s'est adapté à qui ? Il y a Sako, Koscielny, il y a Yangam Biwa un petit peu aussi. Titi quand même.
Ouais. Kimpembe.
Ouais.
Lucas Hernandez.
L'anglais un petit peu, Lucas Hernandez. Et lui, il est là depuis un peu plus de 10 ans. Enfin non, 10 ans, un peu moins de 10 ans d'ailleurs.
Et heureusement. Hein.
Et c'est phénoménal, voilà. Donc j'ai très envie de le voir avec Upamecano.
Allez, question subsidiaire, c'est juste pour vous, c'est juste pour le podcast et c'est juste pour profiter de la science de Maxime Dupuis. Maxime, pour toi, parmi tous ces mecs-là, quelle a été la meilleure charnière avec Varane ?
Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aimais bien Sako, quand même.
Ah ouais, mais moi...
Elle est arrivée trop tôt, et j'aurais bien voulu voir pendant l'Euro. Mais bon, je pense qu'avec Umtiti, c'était quand même... c'était quelque chose, là.
Moi, j'aurais presque dit Koscielny, mais tu connais mon attachement pour Lolo.
Après, moi, le problème, j'ai du mal à... Koscielny, il y a sa phase qui n'est pas forcément...
Arrête, tu ne vas pas me redire les pénaltys qu'il a provoqué, tout ça. Arrête,
un moment, après, il a été très, 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 très bon.
Tu mais est-ce que finalement... Après,
oui, mais regarde, la compète qu'il joue, il n'est pas avec Varane.
Il est excellent.
Il est excellent, mais ce n'est pas avec Varane. Donc, non, moi, je garderai quand même... J'ai beaucoup de regrets avec Sako, parce que c'est dur pour Sako, ce qui s'est passé.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est... Ouais, mais c'est que tu choisisses la facilité. Et ça te ressemble pas.
Ah ben, j'ai dit Sako au début.
Ça te ressemble pas.
J'ai dit Sako au début.
Ouais, non, mais faut... Ouais, mais soyons sérieux. Soyons sérieux.
Ah non, non, c'est bien, Sako.
On termine cette émission, Maxime, avec... Ousmane Dembélé, qui avait joué le match inaugural en 2018 face à l'Australie, il avait été mauvais, il avait été sanctionné et on n'avait plus revu la Coupe du Monde dans un 11 de départ. 4 ans plus tard, il démarre face à l'Australie. La question est simple, en a-t-il montré assez pour convaincre Deschamps de le maintenir dans un système ultra-offensif face à des Danois qui seront a priori un tout petit peu plus dangereux que les Australiens ?
Alors je pense qu'il n'en a pas montré suffisamment à mes yeux, mais je pense que ça peut être suffisant. Il était en conférence de presse aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, ça explique qu'on voit sa bonne humeur, sa manière d'être, combien un type comme ça est important dans un groupe, parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'est évidemment ce qui se passe sur le terrain, mais à côté. En revanche, je ne sais pas ce qui se passe à côté qui lui permette sur le terrain. Pour ce qui est du terrain...
Tu m'as perdu, là.
Il a été pas très bon en première période, et moi, je l'avais trouvé presque timide, et comme s'il manquait de puissance et de vivacité au moment de mettre un coup de rein. Et ça faisait très bizarre, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Je l'ai trouvé un peu meilleur par la suite, ce qui lui a permis, je crois, d'obtenir la note de 5,5, c'est ça ?
C'est ça, 5,5.
5,5 dans les colonnes d'Eurosport.
Ce qui est bien, mais pas top.
Et en revanche, pour ce qui est de tu l'as dit, la composition offensive... j'ai envie de revoir avec un adversaire un peu plus fort, parce que moi, ce que j'ai revu tout à l'heure, alors pour le coup, c'était surtout Griezmann, mais comme ils étaient un peu dans la même aire de jeu, j'ai vu un Dembélé au moins qui faisait l'effort de se replacer, de fermer son couloir. Le faisait-il bien ? Le fera-t-il bien face à un adversaire plus fort ? J'en sais rien. Mais au moins, il y avait cet effort. Il n'est pas tombé dans le piège de l'Australie 2018, où là, pour le coup, il ne courait pas. Là, au moins, il a fait ça. Et puis, évidemment, il y a Griezmann autour de lui dans ce rôle un peu hybride qui aidait à compenser. Donc, je dirais pareil que tout à l'heure, j'ai envie de revoir ça avec face à un adversaire plus fort.
En a-t-il assez montré ? Moi, je dirais non, parce que je l'ai trouvé trop neutre, malgré sa passe décisive, ce qui n'est pas rien quand même, mais je l'ai trouvé trop neutre. Et même dans ses replis défensifs, ce ne sont pas des replis qui pesaient dans le scénario du match. Oui. Pareil pour ses percées. Alors, il a fait au moins 2 différences en première mi-temps. Ce n'est pas rien. Il a fait des centres qui auraient pu être décisifs, mais sa reprise trop molle, trop brouillonne. Je trouve qu'il a manqué un peu de conviction, mais un peu à l'image de cette équipe de France. Et je trouverais ça cocasse qu'il s'installe dans le 11 grâce à une telle performance. Non, mais... Pour moi, il n'en a pas fait assez. Et ce que je dis aussi par rapport à ça, c'est que non seulement il n'en a pas fait assez, mais je trouve que ce système, moi, est trop risqué face aux Danois. Pourquoi pas face à la Tunisie ? Pourquoi pas face à des adversaires vraiment...
Il y en aura de moins en moins.
Il y en aura de moins en moins. Mais la Tunisie, ça sera sans doute le dernier, parce qu'après, c'est le coup près. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille s'entêter dans un système aussi risqué, alors même qu'on sait, pas à 100%, pas à 90%, mais enfin, on sait que si la compétition continue... A priori, ce sera des adversaires plus compliqués que l'Australie. Et donc, il faudra un tout petit peu fermer les vannes. Fermer les vannes avec Dembélé, j'ai un doute.
Mais, ouais. Après, de ce que je vois hier, moi, c'est la clé, en fait, c'est Dembélé, mais c'est Griezmann, évidemment.
Oui, oui, c'est Griezmann.
Entre deux, c'est-à-dire que... Alors, on en a un peu fait beaucoup sur son poste de relayeur. Alors, quand vous regardez le match, il est il y a des moments où il est dans cette position-là, mais surtout quand le ballon repart de l'arrière. Mais en fait, quand il défend comme en 2018, c'est-à-dire voilà. parfois à 3, parfois en 10, et c'est surtout son activité, son don de soi qui lui permet de revenir boucher des trous. Mais c'est vrai que... Alors, je suis d'accord avec toi sur Dembélé. De toute façon, l'adversaire n'est pas de taille à laisser imaginer quoi que ce soit ou tirer des conclusions sur l'efficacité
de Dembélé. C'est ce que je voulais t'entendre dire.
Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il fasse l'effort de s'appliquer à revenir. Alors évidemment, ça ne sera jamais un... D'ailleurs, moment très drôle aujourd'hui en conférence de presse, quand Dayo Upamecano a été interrogé sur le fait qu'il pourrait peut-être jouer arrière-gauche. Et il a dit, alors il rigolait pas, mais en gros on a compris que c'est une blague, où il dit, bah non, mais là, faut faire jouer Ousmane ou Coman arrière-gauche. Et Dembélé est venu après, il a dit, ah non, mais là, moi si je joue arrière-gauche, on va prendre beaucoup de buts. Voilà. Bon, là il était pas arrière-gauche, il était plus côté droit à fermer le couloir, mais au moins j'ai aimé l'application, et c'est déjà un plus par rapport à ce qu'on avait vu face à l'Australie il y a 4 ans.
Ouais, il n'a pas fait deux fois la même erreur.
Ouais, au moins, voilà, il a appris de ses erreurs, et de toute façon, c'est un joueur qui a grandi, comme il dit, j'avais 21 ans, là j'ai 25 ans, donc c'est pas la même.
Mais t'es d'accord qu'il nous a pas enthousiasmé on peut plus s'en passer quoi.
Il m'a plus
c'est pas Coman contre le Kazakhstan,
je dirais qu'il m'a plus déçu offensivement par rapport à ce que j'attendais que défensivement, parce que encore une fois il s'est appliqué à faire ce qu'on lui avait demandé. Était-ce efficace? J'en sais rien, parce que de ce côté-là, finalement, il ne s'est pas passé énormément de choses au final. Mmh. Heureusement, d'ailleurs, peut-être. Mais en tout cas, c'est offensivement où j'attendais cette petite... Enfin, vous voyez Dembélé, vous imaginez des dribbles, ça part dans tous les sens, feu follet. Et puis, ses premières prises de balle étaient vraiment très, 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 très timides. Ça a été mieux par la suite. En fait, il a épousé un peu la courbe de l'équipe. J'en attendais plus au moins là-dessus. Mais ce n'est pas tellement défensivement que j'aurais des reproches à lui faire, là, pour le coup.
Et ben voilà, on a été efficace, Maxime.
Écoute, oui.
J'étais bon. T'as été fidèle à toi-même.
J'étais fidèle à toi-même.
C'est-à-dire, un peu comme Dembélé. Tu vois, ni génial.
Non, pas timide.
Non, pas timide.
Mais je suis meilleur dans le replacement, quand même, je pense.
T'es meilleur dans le replacement, ouais.
Moi, je suis généreux dans l'effort, ça, c'est pas de problème.
T'es généreux tout court, Maxime.
Donc, je pourrais courir.
T'es généreux. Ouais, alors là, par contre, profites-en, du coup.
J'en profite.
Profites-en. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Merci à Anne.
Elle a crié dans l'oreille là, ouais. Parce qu'elle a le casque sur les
oreilles. Elle aime pas que je crie Anne, donc hop, un petit cri là pour lui faire plaisir.
Mais c'est que c'est désagréable pour les auditeurs aussi.
Ouais, je sais, pardon. Si vous écoutez en voiture, j'ai peut-être réveillé les gamins. Et je sais ce que c'est, donc là je suis désolé si j'ai réveillé vos gosses.
Mais je sais pas, alors.
Je vous offre un an de comptine.
C'est si tu as.
Si j'ai réveillé un gamin dans une voiture, je vous offre un an de comptine.
Ou de cantine?
De comptine, ah, c'est-à-dire que je vous enregistre 6 heures de comptine.
Je sais pas si vous êtes gagnant. Mais là, la question que je me pose, c'est à quel moment les gens nous écoutent dans la voiture avec les gosses qui dorment? Parce que là, si c'est ce soir, on est mercredi soir.
Je sais pas, des gens qui partent en week-end. Ouais, non.
Voilà. Et le lendemain matin, c'est vrai que les gamins sont vite endormis dans la bagnole.
Ouais, c'est vrai, des gamins dans la bagnole un jeudi soir.
Non, mercredi soir. Et demain matin, ils vont à l'école. Je suis perdu. Donc en gros, ça c'est le décalage avec le Qatar, c'est normal. Entre le chemin pour aller à l'école, ils sont peut-être narcoleptiques.
Ouais, là, ils seraient narcoleptiques, les petits, ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, bon, désolé pour ces petits cris. En plus, on m'a dit qu'on entendait les peu. Voilà, donc.
C'est moi, j'avoue, c'est moi. Et quand j'écoute Martin, pourtant. Je l'entends.
Alors, vous savez pourquoi?
Je réécoute l'émission.
Oui, mais vous savez pourquoi il m'écoute? Parce qu'il s'inspire, tout simplement. Moi, j'écoute pas, c'est pas la peine.
Mais en fait, je suis avance rapide quand tu parles.
J'écoute pas, c'est pas la peine, moi. C'est un jet comme ça, tu vois, c'est Picasso devant son tableau. C'est...
Ouais. On va peut-être mettre ça sur tes objectifs de fin d'année, réécouter les émissions. Hein.
En tout cas, on voit qu'il les écoute, Maxime, vous savez pourquoi? Parce qu'il progresse. Bon, on se donne rendez-vous, pas demain du coup.
Et non, pas demain. Demain, tour du monde avec Cyril Morin. Alors là, et pour le coup, il aura énormément de choses à dire parce que l'Allemagne, l'Espagne, même l'Angleterre, il va y avoir de quoi dire. Non, je rigole. Désolé, Guillaume, si tu nous écoutes.
Ouais, voilà. Guillaume Maillard-Pacini.
Mais là, il y aura beaucoup de choses à dire et ça va être très intéressant pour le coup.
Exactement. Et nous, on se retrouve donc vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team à la veille de France-Danemark.
Déjà.
Ouais, qui nous excite bien, et puis on se retrouvera après pour France-Danemark et puis pour le reste de la compétition. Merci Anne, merci Quentin aussi pour les visuels. Et à dans 48 heures maintenant.
Déjà.
Voilà. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.